Alors, je crois que les axes, vous avez peut-être intérêt à essayer de les centrer sur la question des oppositions. C'est-à-dire, il aurait peut-être été meilleur de dire opposition, quelle sorte d'opposition. Hein, voilà. Hein, alors, on va trouver des oppositions dans quoi? Dans quoi vous allez trouver des oppositions? Oui, alors dans le vocabulaire, d'une certaine façon, hein, assourdissante, hein, hurler, sensation désagréable, et puis majestueuse, hein, fastueuse, agile, noble, ce qui est du registre de l'éloge. Hein, et chez le poète, on peut trouver crispé, hein, donc on est du côté du blâme d'une certaine façon, on est en opposition. Hein, et le crispé va s'opposer à l'agile du vers précédent. Hein, elle est agile, lui il est crispé. D'où l'intérêt, je veux dire. Elle peut lui apporter une certaine décrispation. Hein. Même chose. Alors par rapport à cet éloge, vous avez quand même ce qui arrive après, c'est-à-dire ciel livide où germe l'ouragan, une espèce de menace, hein, et puis des oppositions qui sont très évidentes entre la douceur qui fascine, donc l'évocation, moi je dirais, du serpent, hein, qui est très courante, voire aussi le serpent qui danse, hein, l'évocation de la femme serpent, ben ça remonte quasiment à Adam et Ève, hein, et le plaisir qui tue, même chose, un double système d'opposition dans ce deuxième quatrain qui forme quasiment la conclusion des deux quatrains. Donc là, vous n'avez pas tort de me dire la rencontre. Si vous mettez la rencontre en première partie, ça vous permet de traiter les deux quatrains. Sûr. Hein, sauf à trouver, je vous dis, un plan centré sur les oppositions, plutôt, sur la question. Alors, on continue de parcourir les oppositions. Un éclair, la nuit. Une des clés du poème, l'expression fugitive beauté. Hein? Alors, là, c'est pas pour moi l'opposition, c'est plutôt une clé du poème. Hein? C'est-à-dire, ce poème sert à quoi? À rendre permanent une sensation fugitive par le poème. Hein? Ensuite, il y a l'efficacité dont le regard m'a fait soudainement renaître. Hein? Alors là, il y a encore une opposition entre l'idée de renaissance, de résurrection, et l'idée qui suit derrière, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, c'est-à-dire l'évocation de la mort. Et puis derrière, vous avez plutôt des amplifications. Hein, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais. Hein, on est ici dans, comment on appelle ça, une gradation. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Alors là, vous avez une opposition dans la structure. Hein? Pourquoi? Parce que je, vous l'avez vu? Ça ressemble fort à un chiasme. Vous savez ce que c'est qu'un chiasme? Une structure ABBA. Hein? Je, hein? Je, verbe, et la fuite, d'accord? Et ensuite, tu, verbe, et je vais. On est plutôt dans le parallélisme de construction que dans le chiasme. Oui, on est dans le parallélisme et pas dans le chiasme. Voilà. Alors l'opposition, elle est dans les pronoms de conjugaison, je et tu. Hein? Alors le chiasme, il est, si il y est le chiasme, mais le chiasme, il est dans les pronoms, de les pronoms personnels. Regardez bien, vous avez je, tu et tu, je. Vous voyez où il est le chiasme? Vous avez à la fois un parallélisme de construction à sujet, verbe, complément de lieu, sujet, verbe, complément de lieu, Et vous avez un chiasme dans les pronoms personnels. C'est-à-dire « je, tu » et « tu, je », avec inversion de l'ordre. Avec le haut lyrique derrière « ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais ». Donc on va retrouver une opposition de structure dans le dernier. L'éclair la nuit, on l'a dit, dans les oppositions. Voilà. Voilà. Moi, je vous proposerai comme axe, alors, on a les marques d'opposition, le relevé qu'on vient de faire, et en deux, du fugitif au permanent. Hein? En deux, du fugitif au permanent, alors qu'il va falloir nourrir, mais qui nous ramène au sens du poème. Donc, en un, les marques d'opposition, et en deux, du fugitif au permanent. Alors là, on fait une galipette, si vous voulez, dans la mesure où on a, dans la deuxième partie, on est sur la signification du poème, mais dans notre intitulé, c'est une opposition. Hein, de dire fugitif et de dire permanent, c'est une opposition. Donc ça nous permet de nous raccrocher à la question. Hein. Néanmoins, on est dans qu'est-ce que ça signifie. Donc on considère ce relevé des oppositions qu'on l'a fait. Qu'est-ce qu'on va dire dans du fugitif au permanent? D'abord, qu'est-ce qui évoque le fugitif, hein. Donc on va faire le relevé de ce qui évoque le fugitif. Il y a déjà le titre, la passante, ça évoque. Et effectivement, est quelque chose qui est la chose d'un instant, en quelque sorte. Hein? Quelqu'un qu'on croise. Donc à creuser le sens du mot passante, en quelque sorte. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une passante, personnage non identifié, qu'on aperçoit brièvement? C'est ça, un passant. Hein? Donc à définir le titre, hein? À une passante. Et décoder l'opération à laquelle se livre ici Baudelaire. C'est-à-dire faire de ce croisement passager, de ces sensations fugitives, en faire un objet permanent qui va être le poème. Hein? Il le fixe comme s'il avait pris une photo, hein? Comme s'il avait filmé à la limite le passage. Hein? Il va fixer cet instant. Très court. Alors, dans le fugitif, eh bien, on peut revenir sur l'organisation du récit, hein, parce que sinon on ne va pas avoir l'occasion d'en parler. Un, donc, on va dire l'organisation du récit, implanter le décor, la rue, hein, la rue assourdissante, c'est-à-dire autour de moi hurler avec cette redondance du bruit, hein, assourdissante et hurler. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? D'une certaine façon, la permanence du bruit dans la rue. Hein, la permanence du bruit. Mais c'est au passé. Et au deuxième vers, on a l'impression, même si ce n'est pas dit, qu'un silence se fait. Un silence se fait avec le passage de cette femme. Hein? Mais, alors, on revient sur l'idée de fugitif qui est exprimée, qui reprit l'idée de la passante par « une femme passa ». Avec la vision, bref, de cette femme, dont... Alors on s'en va vers la permanence avec une espèce de ralenti dans la première strophe. Hein, on fixe le geste d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Là on a l'impression de ce passage rapide que Baudelaire le saisit et le ralentit, le fait durer. Hein, le fait durer. Agile et noble. Bon, l'évocation du mouvement, mais l'évocation de la grandeur. Et après, vous avez avec sa jambe de statue. Hein, la statue, bien entendu, c'est une image de la permanence. Hein, de la permanence de l'image de la femme ou de l'homme, hein, suivant c'est fixer l'instant, mais en plus la fixer en volume, hein, la fixer en même pas en relief, mais la fixer en volume, en 3D. Alors, ce qu'on peut dire aussi, moi je buvais dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine, le plaisir qui tue. Donc attention, il n'est pas installé en train de boire à une terrasse de café, hein, pas de contresens. Ce qu'il boit, c'est le regard. Alors là aussi, on voit qu'il essaie d'installer la durée dans ces deux regards qui se croisent. Il installe la durée à travers l'emploi de l'imparfait déjà, hein, parce qu'il aurait pu dire, il aurait pu employer, et assez logiquement, un passé simple, je bue ou je saisis son regard. Hein, il aurait dû dire, je saisis en un instant son regard, au lieu de ça, il nous met un imparfait qui installe une durée. Hein, je buvais, et lui se met dans une certaine immobilité en disant, crispé comme un extravagant, ça veut dire un fou, hein, crispé comme un extravagant, halluciné en quelque sorte, hein, halluciné, et puis il y a plus loin, le mot va être pris par fascine, hein, fasciné. Hein, donc le crispé, il y a l'idée de fascination en quelque sorte. Hein, elle m'a arrêté, hein, elle m'a bloqué. Je buvais dans son œil. Alors, bien entendu, la durée est ajoutée par la parenthèse, hein, et la parenthèse qui est une, grammaticalement, c'est une apposition. Hein, son œil, ciel livide où germe l'ouragan, d'accord? Ou vous pouvez dire, c'est une périphrase qui désigne l'œil. Hein, l'œil est un ciel livide où germe l'ouragan. Alors, qu'est-ce qu'il lit dans le regard de la femme? Il lit une sorte de menace en quelque sorte, hein, et presque une image de, alors l'ouragan c'est quoi, une image de violence, hein, et alors je buvais quoi, et en même temps je lisais, hein, alors je buvais la douceur qui fascine et le plaisir qui, bon, il y a une connotation à la boisson quand même. Hein? C'est-à-dire que là, il y a un rapport entre ce regard et, je dirais, l'alcool. Hein? La douceur qui fascine, le plaisir qui tue, je penserais évidemment à la boisson de l'époque, c'est-à-dire l'absinthe qui rend fou. La fée verte, hein? L'absinthe, c'est une boisson alcoolisée de couleur verte qui rendait fou, hein? Voilà, et qui était très à la mode. Donc il y a à la fois l'image de l'alcool et l'image du serpent dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, dans le fugitif, ici, ce qu'on peut mettre aussi dans le fugitif et le permanent, c'est la vie, le vivant, du côté du fugitif, hein, le carpe diem, la vie ne dure pas longtemps, les instants de la vie, tout instant est fugitif de la vie, hein, la vie c'est du fugitif mis bout à bout, hein, et la mort, c'est une permanence. Hein, dans la mort, il y a une permanence. Hein, et ces poèmes, c'est des sortes de tombeaux, justement, hein, qui fixent des moments de la vie. Bien, un éclair puis la nuit, on est sur mort-vie, et bien on peut garder. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est un éclair, et la mort, ben, la nuit est symbolique de la mort. Hein. Fugitive beauté, alors ce qui est fugitif c'est la beauté, mais ce qui est fugitif c'est également la vie. Hein? Alors dont le regard m'a fait soudainement renaître, alors il faut interpréter le soudainement. D'un seul coup, j'étais mort, il y a l'idée, hein? J'étais mort dans ce bruit, dans cette cacophonie du début. D'un seul coup je suis revenu à la vie. Mais aussi, il faut dire que soudainement est l'espace d'un instant. Hein, derrière le soudainement, il y a aussi fugitivement, hein, renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, Donc, retour hein, à l'idée de la mort. Et puis, il n'a pas l'air très certain de la retrouver dans l'éternité, de la retrouver là, dans la vie, et pas très certain de la retrouver dans l'éternité non plus. Donc, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, hein, ben ici, il retombe dans la permanence du spleen ou du désespoir. Hein. Là, l'idée, le fugitif, ce sont les bonheurs de la vie qui sont fugitifs, et pour lui, on a dit la mort, mais aussi le spleen, la tristesse, qui est quasiment... le spleen, c'est la permanence, pour Baudelaire. C'est-à-dire, sa vie est une souffrance permanente. Et il y a quelques éclairs de bonheur dans cette souffrance permanente. Hein, voilà, le fugitif, ce sont les bonheurs, hein, comme ici, cet instant-là, et le permanent, pour lui, c'est la souffrance. Hein. Le permanent, c'est la souffrance. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Là, ce vers-là, disons qu'il a, c'est une image de la séparation. Hein. On est reparti dans l'inconnu. Hein. On se connaît, on s'est connu l'espace d'un instant, à travers un regard, et paf, l'éloignement. Hein, et l'idée de la solitude. Hein. Donc chacun est reparti vers une permanence, cette fois-ci, permanence de la solitude. Hein. Il y a eu, dans le fugitif, le couple, un couple fugitif, et ensuite on revient dans une permanence de la solitude. Et puis, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, un, il faut relever qu'il y a bien entendu un reproche adressé à la femme, mais alors là on est presque dans la chanson « J'aimerais qu'elle fasse le premier pas », hein, puisque assez traditionnellement c'est plutôt l'homme qui devrait se bouger et aller à sa rencontre et dire voilà, tu vas pas me laisser partir comme ça, enfin je vais pas te laisser partir comme ça par contre, pardon, hein, là il a ou toi qu'il savait, hein, donc l'expression du regret et puis bon, l'expression de la déception. Nous reste, si on a un tout petit peu de temps, à voir comment on va conclure là-dessus. Hein. Ça me paraît assez simple. Hein. Ça me paraît assez simple. Hein. C'est-à-dire, oui, 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 mais essaie de, dans ta conclusion d'être sur un problème d'écriture. Hein. D'être sur un problème d'écriture plutôt que sur l'histoire que ça raconte. Hein. On a vu... Dans au moins un oral hier, que vous avez tout à perdre à vous contenter de raconter l'histoire. Hein. On n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour commenter la façon de raconter, hein, et on n'est pas là pour raconter. Hein. Même s'il faut montrer qu'on a compris de quoi il retourne. Hein. Bien entendu, il faut montrer qu'on a compris l'histoire. Mais ce n'est pas la fonction. Donc, je vous propose en conclusion de dire, de sortir l'objectif de Baudelaire. Hein. Donc l'objectif de Baudelaire, très simple, hein, l'objectif de Baudelaire dans ce poème est de transformer, on revient sur ce qu'on a dit, un bonheur fugitif en un objet poétique. En un objet poétique qui contiendra la beauté de cet instant, en un objet, attends, hein, je relis après, qui contiendra la beauté de cet instant en lui donnant un caractère permanent. Je relis, ça nous sert de synthèse en même temps, hein, par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Donc on a dit, l'objectif de Baudelaire dans ce poème, est de transformer un bonheur fugitif en un objet poétique qui contiendra la beauté de cet instant en lui donnant un caractère permanent. Hein, voilà comment vous pouvez conclure si vous aviez cette question-là. Hein. Vous n'avez pas eu le temps de saisir ? Un objet poétique qui contiendra la beauté de cet instant. Un objet poétique qui contiendra la beauté de cet instant. Alors, au lieu que de donnant, si vous avez le terme, en lui conférant, hein, en lui conférant, c'est déjà un peu plus relevé comme expression, en lui conférant un caractère permanent. Voilà, à partir de là, vous n'êtes pas trop mal, quoi. Hein, et vous avez répondu à la question. Hein, tout en n'oubliant pas d'évoquer le sens du poème ou l'objectif du poète, de l'écriture. Hein, parce que la question à vous dire, c'est comment il a écrit, mais aussi pourquoi il a écrit, à quoi ça sert, hein, quelle est sa visée, comme dans une fable, hein, quelle est sa visée, quel est son objectif. Si on a 30 secondes, par exemple, je reviens un tout petit peu sur le roman sur Madame Bovary, quel est l'objectif de Flaubert? Il nous dit, dans son projet, il nous dit, je veux faire un livre sur rien. Néanmoins, il lui donne quand même comme sous-titre à son roman « Mœurs de province ». Donc, son objectif, c'est de décrire comment on vit en province, sous-entendu qu'en province, si on regarde son roman, c'est le règne des imbéciles prétentieux, c'est-à-dire de Homé, et c'est l'ennui, c'est-à-dire Emma. Hein, en province, on s'ennuie, et en province, c'est le règne des imbéciles. Sous-entendu donc, à Paris, on ne s'ennuie pas, et il y a des gens intelligents. Voilà, ce qui n'est pas si sûr que ça. Hein, mais il y a, derrière ça, voilà, un arrière-plan de cet ordre-là.